Vous êtes sur RTL.
En Conseil des ministres, qui est l'instance qui permet de regarder l'état sanitaire du pays et les mesures éventuellement d'adaptation ou de restrictions qui doivent être prises. Et c'est donc à ce moment-là, et c'est donc après ces deux événements, entre guillemets, que les décisions seront prises et qu'elles seront éventuellement communiquées par la voie officielle.
Vous êtes donc plus prudent que le porte-parole du gouvernement. C'est quoi ce bazar, Jean-Baptiste Djebbari? Maintenant, il se passe moins de 2 heures entre une annonce gouvernementale et un démenti gouvernemental.
Non, mais moi, je veux pas rentrer dans cette discussion, monsieur Soto. J'ai envie de vous parler des transports, de comment les Français peuvent circuler.
On va en parler.
Voilà. Et je pense qu'effectivement, ces situations, elles sont par nature un peu inédites, que tout va très vite, que l'information en continu, parfois aussi, crée des événements comme celui-là. Il faut savoir raison garder.
Mais vous comprenez que les Français s'interrogent, Jean-Baptiste Djebbari?
Mais moi,
ils se demandent si la maison est tenue?
Non mais je comprends parfaitement, je peux vous assurer que la maison est tenue, que nous avons eu hier soir autour du Premier ministre 2 heures de discussion sur l'ensemble des sujets de façon très détaillée et que oui, la maison France est tenue et que oui, l'équation est compliquée entre la situation sanitaire qui se dégrade et vous le savez très bien et qui inquiète à juste raison et de l'autre côté, la crise économique et sociale que nous tentons d'abord d'amortir pour faire repartir le pays. Ce sont des sujets, vous voyez, qui ne sont pas simples et qui nécessitent, et là vous avez raison, une communication forte, constante, cohérente. C'est ce que nous tentons de faire, c'est pas toujours réussi, mais écoutez ma foi, l'impossible nous n'est tenu et je vous promets en tout cas d'essayer de répondre le plus, directement et précisément à vos questions.
J'entends votre soupir sur ces sujets, on va donc passer à votre domaine de compétence qui est le transport. On en parlait dans le journal de 18h à l'instant, Jean-Baptiste Djebbari, est-ce que vous nous confirmez le retour des TGV sanitaires?
Parce que je vous confirme en tout cas, c'est que nous avons demandé à la SNCF de préparer, comme d'ailleurs à l'occasion du premier confinement, tous les moyens disponibles. Ça passe par exemple effectivement par la location, en tout cas la mise à disposition de TGV qui peuvent être médicalisés. Donc ces trains possiblement sont prêts, ils sont à la disposition de l'État, du gouvernement, si besoin s'en faisait sentir. Bon, vous savez, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre un TGV sanitaire puisque les opérations sont maintenant bien rodées. De même d'ailleurs que tous les moyens de l'État, les moyens aériens, les moyens des armées ont déjà été utilisés. Donc voilà, tout est prêt. La petite différence avec le confinement précédent, c'est que le virus, vous vous en rappelez, circulait à ce moment-là beaucoup dans les Hauts-de-France, beaucoup dans le Grand Est, beaucoup en Île-de-France. Aujourd'hui, le virus circule partout en France et de façon quasiment homogène. Donc ce sujet des transferts, à la fois à l'intérieur de la France et puis éventuellement en lien avec nos voisins frontaliers, ça s'approche de façon un tout petit peu différente de ce que nous avions fait à l'occasion des premiers confinements.
Les voisins frontaliers, c'est qui? C'est l'Allemagne notamment? C'est...
Oui, qui, vous le savez, avait été un très grand, un très bon partenaire lors du premier confinement, de même que la Suisse, en accueillant plusieurs dizaines de malades et donc nous avons des rapports très très directs, très solidaires et je sais que le ministre Véran échange quasiment quotidiennement avec son homologue allemand.
Confinement oblige, la SNCF a annoncé qu'elle allait réduire drastiquement jusqu'à 70% le trafic de ses TGV. La SNCF, que le gouvernement a déjà beaucoup aidé financièrement, qui vient de lever 2 milliards d'euros sur les marchés. Est-ce que le gouvernement remettra la main à la poche pour l'aider si c'est nécessaire?
Bon, d'abord, vous savez que nous avons, à l'occasion du plan de relance, mis 5 milliards sur le soutien au ferroviaire. Et que vous avez raison de rappeler que cette première crise du Covid a coûté quasiment 2 milliards et demi à la SNCF, du fait notamment de la faible fréquentation des TGV. Donc ce que nous avons fait, ce que j'ai demandé à la SNCF, c'est d'abord d'affronter la réalité. À compter de jeudi, et même d'ailleurs pour cette semaine, vous avez environ 15% de la fréquentation habituelle. Nous avons un week-end de retour quasiment normal, mais 15% de la fréquentation habituelle pour 100% des trains. Il est évident qu'il n'est pas responsable de faire rouler autant de trains à vide que ça a un coût pour la collectivité publique qui est important. Donc j'ai demandé à la SNCF d'adapter son offre. Nous aurons à compter de jeudi environ 30% des trains pour 15% de la fréquentation, ce qui permet à la fois de nous assurer que sur les plans sanitaires les choses sont contrôlées et puis de minimiser les dépenses pour la collectivité publique. Mais le gouvernement a toujours été présent aux côtés de l'opérateur public ferroviaire. Il en sera de même qu'il est présent pour l'ensemble des opérateurs publics et privés de ce pays dans ce moment particulièrement difficile sur le plan économique.
Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que seront les pertes de la SNCF à la fin de l'année? Vous avez une idée?
Non,
déjà
c'est encore difficile à dire. D'abord parce que aujourd'hui nous sommes dans un confinement un peu adapté avec les scolaires qui circulent, avec du télétravail qui n'est pas forcément possible pour tous les Français. Et donc nous avons par exemple dans les transports en commun une fréquentation qui est moitié moins que d'habitude aux heures de pointe le matin notamment, mais nous avons en moyenne 35% de la fréquentation. Donc nous avons, voilà, nous essayons d'appréhender ce que sera ce confinement au plus près, raison pour laquelle notamment en Ile-de-France, en lien avec Madame Pécresse et la présidente de la RATP, nous attendons la fin de semaine pour regarder réellement ce que sera la fréquentation avant d'ajuster le nombre de trains. Nous ne voulons pas évidemment que des effets de trop forte affluence ou que le nombre de trains conduisent à voir des images que vous savez qui sont toujours compliquées et difficiles à voir et des effets d'engorgement et de bouchons qui sont toujours difficiles à vivre aussi pour les usagers du rail.
Et qu'on voit encore sur certaines lignes de métro, on voit certains messages sur Twitter notamment sur la ligne 13 en Ile-de-France. Les chiffres que vous nous donnez, c'est 50% de fréquentation de manière le matin dans les transports urbains parisiens, c'est ça, et 35% de manière générale?
C'est ça, en moyenne sur la journée c'est environ 35% de fréquentation, c'est donc par exemple moitié moins que la semaine dernière, au moment où on avait le couvre-feu, et nous avons ce qu'on appelle une pointe du matin, où ce sont essentiellement les personnes qui n'ont pas d'autre choix que de venir travailler entre 6h30 et 7h30, essentiellement d'ailleurs les premières lignes, comme on les appelle maintenant, qui se déplacent tôt le matin, et qui donc fait que cette pointe de 50% de la fréquentation, elle est-elle assez, assez rigide. Mais sur la ligne 13, j'en dis un mot, parce qu'on en a beaucoup parlé. Nous, on a fait, à l'occasion du premier confinement, et encore là, les efforts maximums en lien avec la région et la RATP pour parfois rajouter des bus, parfois effectivement accélérer les cadences entre les trains. Pour la ligne 13, on aura mi-décembre un événement qui va être important, qui va être l'ouverture ou la prolongation au nord de la ligne 14, qui va permettre de délester quasiment 30% des passagers de la ligne 13. Et c'est donc par cette solution très structurelle que nous n'aurons plus autant d'images sur la 13 que nous les avons habituellement.
Jean-Baptiste Djebari, dans ce contexte sanitaire très particulier, les principaux syndicats de la RATP appellent à une journée de grève dans les transports, ce sera le 19 novembre. Est-ce que cette grève vous paraît responsable, vous paraît légitime? Qu'est-ce que vous pensez de cette grève?
Bon, d'abord, nous allons continuer à échanger avec les syndicats de la RATP. C'est un sujet qui est ancien, en définitive, celui qui est abordé aujourd'hui, qui traite de l'ouverture à la concurrence du bus. Donc, mon conseiller social, les services du ministère ont reçu 5 fois et recevront une 6e fois les représentants des salariés de la RATP. L'idée, en tout cas l'objectif que moi je veux poursuivre, c'est bien d'avoir à la fois un haut niveau de protection sociale dans ce nouveau contexte d'ouverture à la concurrence du bus, de procéder aussi à...
Pardon, c'est sur le fond, mais sur la forme, est-ce que c'est le moment de faire grève en ce moment, pendant un confinement et toutes les difficultés que connaissent les Français?
Je vais vous dire, le fond, ça compte. Quand vous êtes chauffeur de bus à la RATP, vous voulez savoir quel est votre cadre social, combien vous allez gagner. Quand vous êtes responsable public, vous voulez savoir combien ça va coûter. Et surtout, vous voulez de la continuité du service public. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup le fond et effectivement un peu la forme, mais beaucoup le fond. Et le fond, on en discute avec les syndicats et ce sera une 6e réunion avec eux très prochainement pour continuer à aborder intelligemment ces sujets.
Les syndicats de transport routier sont inquiets aussi car les chauffeurs ne trouvent plus où se nourrir, où se doucher, où se détendre avec la fermeture des relais routiers. Est-ce que vous allez les rouvrir, ces relais routiers? Est-ce que vous y êtes favorable?
Moi, depuis la semaine dernière, j'ai alerté sur ce sujet. J'ai demandé à ce qu'on construise un protocole sanitaire très précis, parce que l'idée, c'est évidemment pas d'ouvrir et que tout le monde puisse venir, puisque vous le savez, par nature, les restaurants sont fermés. Mais d'abord, deux choses. Les routiers répondent encore présents dans ce moment compliqué, et ils sont des acteurs, vous le savez, essentiels, notamment à la chaîne alimentaire, à la chaîne logistique.
Et vous avez raison de le souligner.
Il faut les remercier pour ça. Et il faut toujours le rappeler. Et il est parfaitement normal qu'ils aient des conditions d'accueil dans les aires de service qui soient confortables, qui soient agréables, qui soient dignes, et donc prendre un repas chaud au chaud pour les routiers, c'est moi ce que je défends évidemment pour eux. Et le sujet, c'est de savoir comment on met ça en œuvre. C'est l'objet des protocoles sanitaires que nous construisons avec nos collègues, notamment des services de la santé. Mais je le dis très clairement, nous leur devons bien ça. Et le sujet, c'est de savoir comment.
Mais ça rouvrira quand? Alors qui prend la décision si c'est pas le ministre des Transports?
Non, c'est en interministériel. Vous savez, le sujet, c'est de construire le bon protocole sanitaire de manière à les protéger, eux, quand ils mangent en collectivité. Et c'est des sujets qui sont débattus en lien avec les préfets territorialement compétents. Et au niveau interministériel, nous avons demain un conseil de défense, comme je l'ai expliqué. Et l'idée, c'est d'aboutir en fin de semaine pour avoir un cadre, un protocole sanitaire qui soit robuste. En tout cas, c'est l'option que je défends de mon côté. Et je crois que c'est celle qui a vocation à prospérer.
Donc vous êtes plutôt optimiste sur ce point. La dernière question, Jean-Baptiste Djebari.
Absolument, je les recevrai demain soir, les routiers, justement, pour échanger avec eux sur tous ces sujets très importants.
Dernière question, elle concerne Air France. La patronne d'Air France dit qu'il va falloir recapitaliser pour tenir. Est-ce que l'État est prêt à monter au capital ? Aujourd'hui, c'est 14% du capital d'Air France qui appartient à l'État.
Oui, nous l'avons dit à plusieurs reprises, notamment avec Bruno Le Maire. L'État est prêt à recapitaliser le cas échéant. Le vrai sujet, c'est de savoir, d'abord, c'est d'anticiper ce que sera le trafic aérien à brève échéance. Et vous voyez bien qu'avec ces confinements successifs, évidemment, les anticipations sont un peu dures à évaluer, ou en tout cas, les hypothèses sont dures à réaliser. Et par ailleurs, c'est de savoir comment pourra se comporter dans un contexte très compliqué le groupe Air France KLM, quel sera son projet stratégique. Et donc tout ça doit s'évaluer dans un contexte compliqué. Et je rappelle aussi que nous avons nos amis néerlandais au capital d'Air France KLM dans les mêmes proportions que l'État français. Donc cette discussion, elle est aussi géopolitique. Et c'est bien sur ces trois sujets, la stratégie de la compagnie, le marché tel qu'il reprendra et l'accord géopolitique qu'il faut avancer de concert.
Et en tout cas, on entend que l'État est donc prêt à monter au capital d'Air France. Merci beaucoup à vous, Jean-Baptiste Djebari, d'avoir été en direct dans RTL Soir. Dans un instant, c'est l'œil de Philippe Cavrivière et je crains le pire. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Oui Thomas, vous avez le retour caméra ? Est-ce que vous voyez sur RTL.fr ? Vous avez vu
à quelle place je
suis assis ?
Vous êtes à ma place.
Eh ben, je suis enfin à la place que je mérite. Ça m'aura pris quoi ? Un an et demi ? En 18 mois, j'ai fait sauter Mazerolle, Andrea Bescon et Thomas Soto !
Ouais.
Oh, enfin, j'aurais aimé que la direction vous l'annonce autrement. Mais voilà, c'est comme ça.
C'est les privilèges du cas contact, ne plus être à votre contact, mon cher Philippe. Malgré tout, nous vous écouterons avec plaisir juste après le rappel des titres du 18h30. Et Amandine Bégaud, à tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto.